J'espère que ça existe. Hein? C'est peut-être... Oui, voilà, c'est ça. Oh, on va déjà lire le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes, les femmes aussi, hein, faut pas... C'est vrai que la Bible dit souvent les hommes, hein, mais c'est aussi les femmes, là aussi, dans ce cas-là. Hein? Car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, d'un porteur de bonnes nouvelles. Remplis bien ton ministère. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. La bonne nouvelle. Nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle. C'est ça, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle de quoi ? La bonne nouvelle du pardon. Il y a un mot théologique, c'est le mot expiation. Et quand on entend le mot expiation, la plupart du temps, les gens ne savent pas ce que signifie expiation. Pardon. Le pardon, la purification. Le pardon, qu'est-ce que c'est le pardon ? Eh bien, c'est une chose que nous devons accorder à tous. Pardonner, c'est passer par-dessus. Passer par-dessus. Frères et sœurs, Dieu nous a montré comment faire. Il nous regarde, en ce moment même, il nous regarde au-delà de nos fautes, au-delà de nos erreurs. Il ne laisse pas sa perception se poser sur nos erreurs. Vous savez pourquoi le ciel est noir ? Quand on regarde le soir les étoiles, tout ça, mais on voit le ciel est noir. Vous savez pourquoi ? Parce que la lumière ne trouve rien pour venir taper dessus. Si un jour on voit quelque chose d'un peu clair dans le ciel, c'est que la lumière est venue toucher le fond. Il n'y a pas de fond. Eh bien, la perception de Dieu ne s'arrête pas sur nos fautes. Il va au-delà, il passe à travers, il passe par-dessus. C'est pourquoi c'est à quoi nous sommes appelés nous aussi, prêcher l'Évangile. Quelle est ta perception ? Qu'est-ce que tu perçois chez toi et qu'est-ce que tu perçois chez ton frère, chez ta sœur ? N'accepte pour vrai que ce qu'il est vraiment, que ce qu'elle est vraiment, que ce que tu es vraiment. Ça, c'est le secret pour bien vivre. Si tu perçois ce qu'il n'est pas, eh bien, également, toi, obligatoirement, tu vas avoir une fausse idée de qui tu es. Ton identité et son identité, l'identité de ton frère, de ta sœur, du païen qui se promène dans la rue, l'identité des gens, c'est partagé. Quoi ? Entre le faire et l'être. Je vous ai déjà enseigné ces choses-là. Il y a ce que les gens font, il y a ce que tu fais, et il y a ce que tu es. Il y a ce que les gens sont. Ce que tu fais, ce qu'il fait, ne reflète pas forcément ce que tu es. Ce que tu fais, ce que les gens font, ne reflète pas forcément ce qu'ils sont. Ça peut être un accident de parcours. Le mot péché signifie erreur, c'est une erreur, mais ce n'est pas ce qu'ils sont vraiment. Il est méchant, il est ceci, il est cela, pas forcément. Bon, toi ce matin qui es là, qui m'écoute, tu as fait le choix de m'écouter parce que tu crois dans la parole de Dieu, tu aimes Jésus, tu es un enfant de Dieu, tu as reçu par la foi le pardon de Jésus dans ton cœur, l'expiation elle est pour toi, tu le sais, c'est-à-dire tu sais que tu es purifié. Mais aussi rappelle-toi que c'est pour les autres que Jésus est mort. Pas seulement pour toi. L'expiation, c'est l'œuvre de Dieu et c'est le plan de Dieu. Et ce plan, il est au-delà, il est hors, absolument hors de notre portée. Nous n'avons qu'un rôle à jouer dans l'histoire de l'expiation. Ce n'est pas notre idée. Ton rôle, mon rôle, c'est de passer par-dessus les fautes, par-dessus les erreurs, par-dessus les péchés des autres et par-dessus même les tiennes. Et pour passer par-dessus, par exemple, les offenses, eh bien, on a besoin du Saint-Esprit qui est notre guide correcteur. Voilà, un mot, voilà, c'est pas très biblique, je sais, il n'y a pas le mot dans la Bible. Mais je crois, moi, de tout mon cœur, que le Saint-Esprit est un guide correcteur. Si tu ne suis pas, si tu ne marches pas derrière le Saint-Esprit, comme en le considérant comme ton guide correcteur, alors tes erreurs d'appréciation seront, elles ne seront pas justes, elles ne seront pas corrigées en quelque sorte. Le monde ne veut pas du Saint-Esprit comme guide correction. Résultat, ben, le monde, ben, il est ce qu'il est. Hein. Globalement, ça va de pire en pire. Hier, je disais à notre ami Marc, pauvre France, c'est la catastrophe. Il dit non, tant qu'il y aura de bonnes pâtisseries, ça va encore. Et du bon vin aussi. L'expiation, mes frères et sœurs, c'est ça la réalité. La réalité, c'est l'expiation. La purification des péchés, ça c'est la réalité. Jésus a payé le prix fort pour l'expiation, pour la purification de ton péché et du péché des gens. Dieu ne regarde pas les péchés. Il regarde tout le monde au travers du sang de Jésus-Christ. Et un jour viendra le jugement, mais pour le moment, il regarde tout au travers du sang de Jésus. C'est-à-dire, ce sang purificateur. Et nous, on est là et on juge. Oui, alors lui, elle, machin, tout ça. Oui, puis moi, je suis... Quoi ? Je suis pur. Pourquoi ? Parce qu'il m'a purifié. Il faut que je me regarde comme ça. Il faut que j'accepte que mon regard soit corrigé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, le Saint-Esprit est un guide de correction, un guide correcteur. Le péché étant la rupture de l'alliance de Dieu avec l'homme, l'expiation restaure ce lien qui a été brisé. Maintenant, nous avons accès par Jésus-Christ, nous qui sommes croyants, mais ça ne veut pas dire que le pardon n'est pas accordé aux autres. Nous, c'est simplement parce qu'on le sait. Eux ne le savent pas encore. Et nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle, pas seulement blablabla, pas seulement en parlant, mais en vivant, que notre vie soit une prédication. L'expiation n'est pas quelque chose que Dieu doit accorder ou accomplir, c'est une chose qui a déjà été accomplie il y a 2000 ans sur la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Tout. Il est venu pour ça, pour purifier. Alors, l'expiation est un fait. C'est le plan de Dieu qui est accompli, la purification. Il a dit, j'éloignerai tes péchés aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Je les jetterai dans la mer de l'oubli. Seulement les miens ? Non. Dieu a tant aimé le monde. Il a fait ça pour le monde. Maintenant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et nous avons à prêcher ça. Mais nous n'avons pas à juger. Ni nous juger, ni juger les autres. Maintenant, tu es pur, les gens sont purs à cause de l'expiation. C'est un fait historique, ça s'est passé il y a 2000 ans, on peut même donner l'heure d'après la Bible, sur la croix, à Golgotha. Mais tu as besoin maintenant du Saint-Esprit, de ce guide de correction. Parce que si l'expiation est une réalité, mon identité, ton identité, c'est partagé entre ce que je constate et le fait de la purification. Ton identité, elle est partagée entre ce que tu constates et le fait que tu es pur, déclaré pur par Dieu. Pierre voit des cochons et Dieu lui dit, tu manges. Non, il n'y a rien d'impur qui est rentré dans ma bouche. Ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Vous avez été déclaré pur par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Pas seulement vous, le monde. Oui, mais je constate bien que... Ah, je te dis, c'est partagé. Maintenant, il faut que tu suives le guide correcteur. Maintenant, si tu ne crois pas que tu es pur, tu ne peux pas croire que les autres le sont. Et c'est là le grand drame des chrétiens. C'est là le grand problème. Nous devons nous souvenir humblement que le plan de l'expiation n'est pas de nous. Ce n'est pas notre bricolage à nous. Ce n'est pas notre travail à nous. Ce n'est pas notre œuvre à nous. Ce n'est pas notre idée à nous. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Pourquoi ? Parce que nous avons des idées limitées. Très limitées. Sur ce que nous sommes nous-mêmes. Je suis très limité sur ce que je suis. Je suis sûr que je serais très étonné si on demandait, si j'entendais ce que les gens pensent à mon sujet. Je suis limité au sujet de ma croyance, au sujet de ce que je suis. Mais ce qui est important, Paul dit, je ne me laisse juger par personne, c'est Dieu seul qui est mon juge, et il m'a purifié. Maintenant, je vais croire quoi ? Ce que les gens racontent sur moi ? Ce que je pense à mon fort intérieur ? Ou est-ce que je vais me laisser corriger par le Saint-Esprit, qui est ce guide correcteur qui me montre, voilà, Dieu il te voit comme ça maintenant, regarde-toi comme Dieu te regarde. Si tu te regardes comme Dieu te regarde, tu vas pouvoir commencer à regarder les autres comme Dieu les voit. C'est de ce sentiment de limitation, c'est de là que viennent toutes nos erreurs, toutes les erreurs de la chrétienté. Alors écoute bien ça. Jésus a expié, a purifié ta vie avant même que tu ne naisses. Alors, on dit ça, puis on dit, oh, c'est merveilleux, quelle générosité, oh, qu'il est bon, c'est vraiment bien. Mais réfléchis, comme dirait frère Osborne, pensez-y. L'expiation, la purification, c'est une leçon de partage. Le Saint-Esprit partage avec toi cette connaissance qui est à l'opposé de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal me condamne, te condamne, condamne le monde entier, et ça nous conduit, parce que ça nous conduit à juger. Il a fait quelque chose de mal, il est mal. La connaissance, par contre, de l'expiation me corrige. Plus je vais en connaître sur l'expiation, plus je vais être corrigé. Et plus je vais donc pouvoir modifier mon comportement. La connaissance du bien et du mal nous pousse à juger. La connaissance de l'expiation me rappelle simplement quel est l'usage de mes talents naturels. Quel est l'usage naturel de mes talents, si vous préférez. Frères et sœurs, tu ne peux pas expier, tu ne peux pas purifier les autres, tu ne peux pas purifier toi-même avec les yeux de ton ego, de ton être, de ton âme, de ton intelligence. Les autres, ils sont déjà purs et tu dois apprendre à les voir purs. Je dois apprendre ça. Heureusement, j'ai toute la vie pour apprendre ça. J'ai du temps pour apprendre ça. D'abord, il faut le comprendre et puis ensuite, il faut s'exercer. Et puis, on a droit à quelques erreurs. Dieu est bon, il pardonne encore. Toujours, toujours. On est sous le pardon, sous la grâce. Et nous progressons. L'apôtre Paul dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. On progresse dans cette connaissance. Tes talents, tes capacités, tes aptitudes, tout ce qui se trouve là-dedans, c'est nuisible dans le jugement que fait ton ego. C'est-à-dire, si tu juges avec ton ego, dans tous tes talents, dans toutes tes capacités, dans toutes tes aptitudes, tout ça, la vision va être, de tout ça, ça va être faussée. Soit tu vas trouver ça exagérément trop grand, trop bien, ça s'appelle l'orgueil, soit tu vas le minimiser, je suis minable, je suis nul. C'est pas comme ça ? C'est rarement équilibré le jugement de l'ego, non ? En tout cas chez moi, hein, maintenant vous, peut-être que... Non, je vous connais, je sais bien, on est tous déséquilibrés dans ce domaine-là. Tout le monde ! Tout ce qui est dans tes talents, dans tes aptitudes, dans tes capacités, ça devient une aide quand tu acceptes que le Saint-Esprit corrige ton regard, corrige ton jugement. Il ne faut pas dire des bêtises. Dans le plan de l'ego, dans notre ego, dans notre âme, il y a aussi une place réservée au pardon. Les gens se pardonnent. C'est vrai. Sans l'aide du Saint-Esprit, ils se pardonnent. Voilà. Mais moi, je vous dis, le plan de l'ego n'a pas de sens. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça laisse toujours soit un goût d'orgueil. Oui, moi, j'ai pardonné. hein, en gros, c'est un peu ça. Ou alors, un sentiment de défaite ou de frustration. Il faut du temps. Vous savez, l'ego conduit toujours à l'insatisfaction. Toujours. Le plan de l'ego, regardons un peu comment ça fonctionne. Il va d'abord te faire voir clairement l'erreur, la tienne, celle des autres, clairement. Et ensuite, il va te faire passer par-dessus, parce que tu ne peux pas quand même en vouloir à la terre entière sans arrêt. Donc il va te faire passer par-dessus, ce mot-là. Comment passer par-dessus quelque chose que tu as rendu réel? Non, comment ça? Oui, c'est toi qui le rends réel. Parce qu'en voyant l'erreur, en constatant, en jugeant que c'est mal, c'est, ah, ça y est, c'est, le verbe être. Tu as rendu la chose réelle, pour toi. Tu vas dire, mais c'est réel, il a quand même réellement, il m'a réellement marché sur le pied. Tant que tu ne juges pas, tant que tu ne tiens pas compte de ça, ça n'est pas réel. Tu n'es pas sali par ça, tu n'es pas influencé par ça, tu n'es pas... Tu comprends? Tu veux dire, j'ai eu mal, oui. Ton ego a eu mal, ton corps a eu mal, tes sentiments ont eu mal. Maintenant, si tu regardes avec l'œil de Dieu, c'est différent. Tu ne peux pas vraiment passer par-dessus. C'est comme, par exemple, on dit, voilà, moi, je t'ai pardonné, mais j'oublie pas. C'est vrai, on ne peut pas. À partir du moment où on a jugé, on ne peut plus. On peut ne plus ressentir la douleur. C'est comme quand on va chez le dentiste. Je parlais avec quelqu'un un jour qui me disait, je déteste aller chez le dentiste. Marc, il est allé chez le dentiste, c'est une horreur, il a eu mal et tout ça. Mais bientôt, il n'aura plus que le plaisir d'avoir ses belles dents dans le miroir, tout ça, et les compliments des autres. Il va oublier la douleur, mais il ne va pas oublier qu'il a eu mal. Il y a un problème au fond de nous, des choses qui sont gravées en nous. Puis alors après, on va chez le dentiste à reculons. Après, on va vers le frère qui nous a fait une vacherie à reculons. On va, non, c'est pas comme ça. Il y a une frustration, il y a quelque chose qui est marqué en nous parce qu'on a rendu réelle une chose pour nous. En la jugeant, en la cataloguant. Alors, l'ego va te conduire à des espèces de nébuleuses de mystères. Il va insister pour que tu acceptes l'insignifiant. Qu'est-ce que c'est l'insignifiant? L'insignifiant, c'est ce qui ne signifie rien. Le plan de pardon que l'homme s'accorde sans l'aide de Dieu, ça signifie rien. Il n'y a qu'une chose qui a de la signification en qualité de purification, c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. C'est la seule chose. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est le seul plan sensé parce qu'il vient du cœur, il vient des idées de Dieu lui-même qui est parfait, qui est éternel. J'insiste bien sur le fait de l'éternel. Le pardon que tu accordes parce que tu es rempli du Saint-Esprit consiste à regarder au-delà de l'erreur que tu as fait ou que les autres ont fait dès le commencement. Ça consiste à regarder au-delà de l'erreur dès le commencement. Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu regardes comme Dieu avant que la chose que tu juges, que tu aurais tendance à juger, ait été commise. Jésus a pardonné à l'avance. Et il nous dit de pardonner comme lui il a pardonné. Ça veut dire que pour Dieu, c'est irréel. Il nous a pardonné nos péchés alors qu'ils n'étaient pas réels. Ils n'avaient pas encore été faits. Vous voyez? Pensez-y. C'est comme ça que Jésus nous a pardonné. Et il dit, pour notre bien à tous, que nous devons nous pardonner comme il nous a pardonné. C'est-à-dire, il n'a laissé en lui aucune croyance en la réalité de nos péchés entrer dans son esprit. Il n'a laissé aucune croyance dans la réalité de nos péchés rentrer dans notre esprit. Il a dit, je pardonne. Paix. La paix. Sans jugement. Je pardonne. Est-ce que tu peux dire ça à ton sujet et au sujet de tes frères et sœurs, au sujet des autres? Je ne veux même pas analyser. Je pardonne. Voilà. Pouf! C'est comme quelqu'un qui te devrait de l'argent et qui ne peut pas te rendre. Tu dis, on s'en fout. garde, c'est pas grave, tu ne me dois rien. Voilà. On est amis. Tu ne me dois rien. Vous comprenez? C'est ça que Jésus a fait. C'est ça que Jésus a fait. Et c'est pourquoi ça ne l'a pas souillé. Il a purifié à l'avance, avant que la chose soit. C'est-à-dire, ça n'était même pas réel. Frères et sœurs, pour le Saint-Esprit, même les effets des erreurs sont inexistants. À partir du moment où c'est pardonné à l'avance. Alors, quand les gens disent, il a péché, voilà, c'est pour ça qu'il est malade. Mais écoutez, mais on rigole, mais il y a des crétins qui ont été racontés, des religieux qui ont, pardonne-moi Seigneur, qui ont été dire que le sida, c'était une punition de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Et toutes sortes de choses. Voilà, s'il arrive ça, c'est parce qu'il a péché. Si... Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je vous dis, pour le Saint-Esprit, les effets des erreurs sont inexistantes parce que c'est pardonné avant même que ça ait été une réalité. Simplement, il nous faut suivre les enseignements du Saint-Esprit sur le pardon. Parce que le pardon, c'est sa fonction. Il connaît comment remplir sa fonction. Moi, si j'essaye de bidouiller la chaudière qui ne marche pas au château, c'est pas ma fonction, je suis désolé, je vais la transformer en congélateur. C'est pas seulement 12 degrés que vous aurez, c'est moins 12 que vous allez avoir. C'est pas ma fonction, je ne sais pas. Pour lui, pas la chaudière, mais le pardon, c'est naturel. Pour Dieu, le pardon, c'est naturel. C'est comme les miracles. Pour le Saint-Esprit, les miracles, c'est naturel. C'est pour nous que ça n'est pas naturel. On dit, ah, le Saint-Esprit, c'est naturel pour lui. Et lorsqu'il ne se produit pas de miracle, c'est que quelque chose ne va pas dans notre ego. Souvenez-vous, dans le côté de notre ego, il peut y avoir là des choses qui ne vont pas. Faute de compréhension, manque de tolérance, manque de ceci, manque de cela. Nous sommes partagés, on est bancal. Et le but du Saint-Esprit, c'est que nous ne le soyons plus. Le but du Saint-Esprit, c'est que nous soyons un. C'est ça. Qu'il soit un Père, qu'il soit un. Pas seulement qu'on soit un ensemble, qu'on soit un seul cœur, une seule âme, c'est formidable. Mais comment voulez-vous être un seul cœur, une seule âme, quand on est 15, 20, 30, 40, si on n'est pas déjà un en soi-même, si on est partagé en soi-même, si on dit, ouais, mais vous savez, moi je suis un pourri, ou alors, oui, vous savez, moi, s'il n'y avait pas moi, la communauté, ça ne marcherait pas. Heureusement qu'il y a moi. Savez-vous ce que sont les miracles? Ils sont le signe que tu désires suivre le plan du Saint-Esprit pour le salut. Réfléchissez à ça. Les miracles sont le signe que tu désires suivre le plan du Saint-Esprit pour le salut tout en ne sachant même pas ce que c'est ce plan. Tu l'acceptes. Tu lâches prise, j'accepte, voilà, je crois. C'est ça, croire. Je crois en Dieu. C'est pas seulement je crois dans son existence, je crois ce qu'il dit, je crois ce qu'il fait. S'il dit qu'il m'a purifié, je crois qu'il m'a purifié. Si je crois qu'il m'a purifié, alors je peux me comporter comme quelqu'un de pur. Est-ce que c'est juste? Est-ce que dans votre cœur, ça résonne comme quelque chose de juste? Ou est-ce que vous vous dites, oui, qu'est-ce que c'est ça? C'est mal ficelé, qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, moi je préfère ma bonne vieille culpabilité, ça fait des années que je rôde avec, donc pourquoi est-ce que je vais changer d'idée? Non, je reste comme ça, c'est très bien ma religion qui m'enseigne. Voilà, t'es un pauvre pécheur. Oh, nous sommes tous des pauvres pécheurs, on a sauvé par grâce, mais on est quand même bien des pourris, hein. Le travail du Saint-Esprit, c'est pas ta fonction. Et si tu ne comprends pas ça, si tu n'acceptes pas ça, ben tu ne peux pas comprendre quelle est ta fonction à toi. C'est typique de l'ego, ça, c'est la confusion. L'ego, la confusion, c'est sa fonction. Et tu connais là-dedans. L'ego est rarement à la bonne place, comme je vous le disais tout à l'heure. Soit un peu trop haut, soit un peu trop bas. Rarement, tu ne sais pas, si c'est par ton propre jugement, tu ne sais pas qui tu es. L'ego, lui, il croit que toutes les fonctions lui appartiennent. Alors qu'en vérité, il ne sait même pas ce qu'elles sont. Notre ego est plus que dans la confusion. Notre ego, c'est la confusion. C'est la confusion. Notre ego, c'est une combinaison dangereuse de grandiosité et de confusion qui nous rend susceptibles d'attaquer n'importe qui sans raison. C'est très surprenant, notre ego, de voir que c'est impossible de prévoir la réaction. D'un coup, boum ! Aucune idée, il n'a aucune idée de ce qu'il perçoit, il se permet de, voilà, je m'autorise en moi-même, dans mon centre, dans mon milieu, autorisé à l'intérieur de moi, dans ma tête à moi, mes boyaux de tête à moi. Je pense que... Non. Mon frère, ma sœur, si tu n'as aucune idée de ce qui se passe, à quel point peux-tu t'attendre à réagir de la manière appropriée? Tu ne sais pas ce qui se passe. Voilà pourquoi Jésus dit, ne jugez pas. C'est pas parce que... C'est parce qu'on n'est pas capable. On n'a pas les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qu'on peut juger à partir de quoi? J'ai entendu Billy Graham dire ça à la télévision aux États-Unis. Nous étions avec Marc là et c'était juste à l'époque où Michael Jackson a été jugé. Et le présentateur de télévision aux actualités lui disait mais qu'est-ce que vous en pensez? Il dit mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les juges, c'est leur fonction. Ils ont tous les dossiers, ils savent. Moi, je peux faire que confiance. Je ne dis pas que si ou que ça. Il est jugé, voilà. Par des gens dont c'est la fonction. Moi, qui suis-je? Je n'ai pas tous les dossiers. Je ne sais pas. Je n'ai pas. Eh bien, nous, c'est la même chose, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on est? Laissons ça au Saint-Esprit. Savez-vous ce que signifie le mot insane? On dit toujours, oh, c'est une insanité. Mais insane, ça existe, le mot insane. Le mot insane signifie contraire à la raison, contraire au bon sens. Eh bien, si ton guide, c'est ton ego, ton guide, sache-le, il est insane. Il est contraire à la raison divine. Le problème, c'est que les gens insanes n'ont même pas de raison pour s'apercevoir qu'ils sont insanes. C'est pourquoi, dans Apocalypse 3, il est dit, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu, et tu ne le sais pas. Insane, voilà. Parce que c'est des chrétiens, c'est des égaux chrétiens. C'est les égaux qui sont modelés à la façon chrétienne, mais ce n'est pas des égaux qui sont morts afin de renaître de nouveau, de devenir des êtres créés à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lui, il est éternel. Et ses plans, ils sont comme lui, ils sont éternels, ils sont parfaits. Alors que notre ego, lui, il vit sur un temps qui est emprunté à l'éternité et sur un temps qui lui est compté. Il ne sait pas tout, il ne connaît pas tout, il n'est pas partout. Il est limité, il faut l'accepter, ça c'est l'humilité. Par contre, les jours de ton esprit, l'esprit qui est véritablement toi, cette partie éternelle, cette partie de Dieu qui est en toi, les jours de ton esprit ne sont pas comptés. Alors vis donc par rapport à ton esprit éternel qui est en communion avec l'esprit de l'éternel. Ne redoute rien, n'aie pas peur, même du jugement dernier. Pourquoi avoir peur du jugement dernier? Si Jésus dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, je le crois. Oui, mais Michel, t'as fait si... J'ai confessé mon péché. J'ai dit à Dieu, il est fidèle et juste pour me pardonner, me purifier. Il m'a purifié, je suis pur. J'ai pas peur du jugement dernier. Est-ce que c'est de l'arrogance? Non, c'est de l'humilité. C'est de l'humilité. Le jugement dernier ne concerne pas ton esprit, il est éternel. Ni ton ego, ni ton être vivant. Ton être vivant a été sauvé, ton âme est sauvée, ton âme est purifiée. L'expiation a eu lieu, la purification a eu lieu par le sang de Jésus-Christ. Alors pense à ça. Pourquoi la Bible dit 365 fois « ne crains pas ». Ne crains pas. Parce qu'il n'y a rien à craindre. Il n'y a qu'une seule chose qu'on doit craindre, c'est Dieu. qui lui seul a le pouvoir de nous jeter en enfer. Ce n'est pas le diable qui jette les gens en enfer. Moi, je me rappelle toujours, moi, quand j'étais pas chrétien, je veux dire quand j'étais un simple protestant, je pensais qu'il y avait en quelque sorte deux endroits où passer l'éternité. Un, c'était le paradis où il y avait Dieu qui était comme chef, puis l'autre, c'était l'enfer où il y avait le diable qui était comme chef. Et puis il était là en train de nous tourmenter avec des fourches et toutes sortes de machins. Pourquoi ? Parce que c'était l'imagerie qu'on nous donne dans les tableaux et les explications qu'on donne aux enfants. Oui, le diable, là, là. Mais l'enfer a été créé par Dieu pour y jeter le diable. Il n'est pas le chef de l'enfer. J'ai pas à craindre ça. Rien. Ce qui fait peur, ça vient, c'est à cause des fantasmes, des irréalités. Alors je pose la question, qui est assez sot pour se tourner vers des fantasmes, sinon celui qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas foi dans la réalité? Si tu n'as pas foi dans la réalité, alors tu es bien obligé de mettre ta foi ailleurs, et tu la mets dans des irréalités, dans des fantasmes, dans des idées, dans des peurs injustifiées, dans toutes sortes de trucs. Mais l'expérience me dit que... Trouve ta satisfaction, trouve ta paix dans la réalité. La réalité, c'est que tu es au bénéfice de l'expiation. Jésus est mort pour toi, c'est-à-dire à ta place. C'est fait. Dieu est vrai. Mais il ne peut être vrai pour toi que si tu crois que ce qui fait peur, c'est faux. Si tu croyais faux jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se réjouir. Pourquoi? Oui, il faut se réjouir d'avoir fait erreur parce que tu n'as fait erreur que parce que tu ne savais pas qui tu étais. C'était simplement ça, un manque de connaissance. Tu avais la connaissance du bien et du mal, mais tu n'avais pas la connaissance de Dieu, tu n'avais pas la connaissance de qu'est-ce que Dieu dit de toi. Qui es-tu? Mais tu es un pur, hein, pur, parce que Jésus t'a purifié par son sang. Il a lavé tes péchés. Tu es un pur. Ça, c'est la réalité aux yeux de Dieu. Je m'en fiche de ce que tu penses de moi. Je sais que Dieu me regarde comme quelqu'un de pur. Maintenant, je peux parler avec toi pour t'expliquer un petit peu si tu as vraiment trop de problèmes avec moi. Que je suis en train de modifier mon comportement pour pouvoir vivre comme en tant que pur. Écoute bien ça. Là, c'est Noël, le Père Noël. J'ai vu, on a acheté Cendrillon, les contes de fées, tous ces machins. Les contes de fées, ça peut être agréable, mais ça peut être terrifiant. C'est pas, Samuel, des fois, ça fait peur. Rappelle-toi que t'es plus petit, t'avais la trouille. Ça peut être effrayant. Mais personne ne dit que ces choses qui sont agréables ou effrayantes sont vraies. Les contes de fées, c'est des contes de fées. Personne ne dit que c'est vrai. Enfin, personne. Bon, les enfants peuvent y croire. Et alors, pendant un certain temps, pendant qu'ils y croient, c'est vrai pour eux. Mais quand la réalité se fait jour, les contes disparaissent, ils n'y croient plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, que pendant tout le temps où ils croyaient aux contes de fées, mais la réalité, elle ne cessait pas d'exister pour autant. La réalité était toujours une réalité. Même si tu n'y croyais pas, même si les enfants ont peur, peut-être, voilà, la méchante sorcière va rentrer pendant la nuit, elle va... Non. Ça, c'est des contes de fées. Et puis, la réalité, c'est que Jésus est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est la réalité. C'est pareil pour ce qui te concerne. Tes peurs ne viennent pas de Dieu. elles sont le produit de ton ego, de ton être, de tes fantasmes, de tes croyances fausses, tout ça. Et pendant tout ce temps où tu te livres à tes fantasmes, à tes croyances fausses, à ces trucs machin, hein, eh bien, pendant tous ces moments-là où tu crains, la réalité, elle est quand même là, et c'est quand même la vérité, et c'est quand même vrai, et la vérité est toujours présente. Elle est toujours vraie, elle est toujours authentique, et elle est toujours à ta portée. À ta portée. À toi d'en prendre conscience. Jésus a fait l'expiation. Tu es pur. Les autres aussi. Cesse de les juger comme impurs et cesse de te juger comme impur. Voilà. Ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Ne crois pas aux fables. Tu me dis, mais ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Non, c'est une fable. Le monde en général croit ces fameuses réalités. Il a fait ci, il a fait ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Ben, c'est des erreurs, passe par-dessus. Jésus n'en tient pas compte. Pourquoi est-ce que toi t'en tiens compte? T'es plus grand que le grand juge. Tu te fais du mal en jugeant comme ça. C'est ce que Jésus veut t'éviter, c'est que tu te fasses du mal. Alors voulez-vous écouter la vérité? Voulez-vous? Les gens préfèrent les fables, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Les gens préfèrent les fables. Celles qui par exemple leur disent, mon pauvre chou, c'est pas ta faute, hein. T'es né comme ça, tu peux rien. Depuis, ça s'est passé quand t'étais tout petit. Tu te rappelles plus. Et puis, ou alors de même, ça s'est passé dans le ventre de ta mère. Tu y es pour rien du tout. Les gens aiment bien fermer leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des fables qui les déculpabilisent, vers des légendes, des idées. Voilà, c'est très joli, mais c'est pas vrai. Vous savez, sur Terre, le plan de l'ego, c'est le plan qui est le plus utilisé pour le pardon. Ce n'est pas le plan de Dieu qui est utilisé, même parmi les chrétiens. C'est ça qui est dommage, même parmi nous. Il faut qu'on fasse attention à ça. L'ego, il essaye de donner ce qu'il n'a pas. Par exemple, qu'est-ce que vous penseriez d'un théologien qui vous écouterait et qui dirait « Oh, mais tu sais, moi je suis comme toi, je suis un pécheur, je suis un pauvre pécheur. » Est-ce que Jésus disait ça aux gens? Non. Vous allez me dire « Oui, mais Jésus, c'était Jésus. » Hey, Jésus nous a envoyé pour dire ce qu'il a dit. Jésus nous a envoyé pour enseigner ce qu'il a enseigné. Il a dit, je vous ai purifié. Et allez porter cette bonne nouvelle. Allez dire aux autres, l'expiation a été faite. Allez dire aux autres, je suis le témoin de cette réalité. Je suis purifié par le sang de Jésus. Et vous aussi, vous pouvez être au bénéfice des effets de cette purification. C'est ça que Jésus veut que nous disions. Il ne nous dit pas d'aller vers les pécheurs et leur dire, « Oh, mais vous savez, moi aussi, je suis un pécheur, mais je crois que Dieu est bon. C'est le bon Dieu, vous savez. Bon, on est bon, misérable, mais bon Dieu, c'est si bon. Hein? Ça console. Hein? » C'est bête. En y croyant et en vivant cette croyance dont je viens de vous parler, que nous sommes au bénéfice de cette purification, vivre la vérité, c'est se comporter selon la vérité. C'est ça vivre par la foi. C'est vivre selon la vérité transmise par Dieu dans sa parole écrite. Dans sa parole écrite. Si Jésus dit, si tu crois, tu es pur. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas pur avant? Si, à ses yeux, je suis déjà pur. Mais ce qui change, si j'y crois, c'est que, voilà, moi maintenant, je sais que je suis pur. Et je vais pouvoir me comporter comme tel. Je n'ai plus cette accusation sur ma vie. Alors, où faut-il chercher la vérité? Eh bien, auprès de Dieu. Auprès de Dieu, qui est la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Et non pas vers ceux qui bricolent, qui essayent de tout leur cœur. Ils essayent, comme moi, si j'essaie de réparer la chaudière. Ils essayent. Ceux qui nous écoutent, ils doivent se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec cette chaudière? Ce matin, on s'est levé au château et il y avait 12 degrés au château parce que la chaudière, je ne sais pas pourquoi, s'est arrêtée. Bon, Eric, qui est un spécialiste, il a trouvé, hop, ça y est, maintenant on a de nouveau chaud. Si c'est moi, je suis un bricoleur. Et il y a des bricoleurs du pardon, des bricoleurs de l'âme, psy et compagnie. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Beaucoup de gens en France se disent psycho, machin, patin, couffin, sans aucun diplôme, sans aucune formation, et ils abîment la vie des gens encore, ils la rendent encore pire. Et la pire des choses, c'est d'enseigner la condamnation et de préconiser des solutions qui font peur. Ça, c'est le pire encore. J'aime mieux un psychothérapeute qui vous dit c'est pas ta faute qu'un pasteur qui vient vous dire ah, le péché, vilain, actu, pauvre. un vrai témoin de Jésus-Christ, il enseigne la bonne nouvelle de l'expiation. Les gens y croient ou ils n'y croient pas. Nous n'avons pas à juger cela. Nous avons à aimer ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Est-ce que ce n'est pas ça le message de Jésus? Bon. Même Jésus disait, vous jugez à la manière des hommes. Et il continue en disant, moi, je ne juge personne. Jean 8, 15. On va lire aussi un autre passage, Jean 12, 47, 50. Ça vous intéresse ce matin? Jean 12, 47, 50. Non mais écoutez bien, un jour ces paroles ont résonné sur la terre, écoutez bien ça. Dieu s'étant fait chair a dit, 47, 15, 50. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il dit, en d'autres termes, il dit, mais si tu ne crois pas ce que je te dis, mais tu es quand même mon copain, je ne te juge pas, je ne te déteste pas, je t'aime quand même. Ok ? Je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Pour... Voilà. Ensuite, il continue. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Ah, il est où? Qui c'est? Eh bien, écoutez, qui est le juge? La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Tu savais, tu n'as pas tenu compte. Tu te juges toi-même en quelque sorte. Tu te juges indigne de ses paroles, tu juges que tu es supérieur à ses paroles. Bon, tu prends ta décision, c'est toi, c'est personne. Même. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. La même chose pour nous. Est-ce que je dis les choses de moi-même ou est-ce que je dis ce que le Père m'a dit de dire? Je vous dis ce que le Père m'a dit de dire. Ah bon, Michel, t'es bien prétentieux. Non, c'est pas prétentieux, simplement je dis ce que je trouve dans la Bible et je crois que la Bible est parole de Dieu, je vous le transmets, c'est tout. Et puis ensuite il dit, et je sais que son commandement, c'est la vie éternelle. Son commandement, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme mon Père me les a dites. Rappelez-vous, vie, son commandement. Juger à la manière des hommes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est juger à la manière des hommes? Ben, pour terminer, laissez-moi vous donner une petite image qui va vous montrer la façon de Dieu et la façon des hommes. Dieu, il commande. Il dit, que la lumière soit! Et la lumière fut. Et alors? Maintenant, regardez un peu la façon des hommes. Est-ce que vous pensez que vraiment, on peut trouver la lumière en fouillant et en analysant les ténèbres comme le font les thérapeutes ou les théologiens en farfouillant dedans? Écoutez ça. La correction de ta façon de juger, ça n'est pas mystérieux. Ton salut n'est pas mystérieux. Ta guérison n'est pas mystérieuse. Mais rien ne changera pour toi à moins d'avoir compris, à moins que tu n'aies compris. Parce que la lumière, c'est la compréhension. Ah, quand il y a la lumière, on voit les choses, on comprend. Ah, voilà. Si vous me tournez la tête dans tous les sens, vous me prenez en voiture en m'entourant avec des foulards et des machins et que vous me mettez dans un endroit tout noir, je ne sais pas où je suis. La lumière, toi, ah, ça y est, je sais où je suis. D'accord? C'est la même chose, la lumière. À moins d'avoir compris. La lumière, c'est la compréhension. Comprends. Non pas tes ténèbres. Ne comprends pas tes ténèbres, fouille pas tes ténèbres. Mais comprends le plan de Dieu, c'est ça qui est important. Le plan de Dieu est comme Dieu, il est parfait. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, 3. De là, certains ont trouvé une théologie, celle de la Trinité ou de la Binité. Moi, je trouve autre chose. C'est bizarre, hein? Connaître Dieu, c'est connaître son plan accompli par Jésus-Christ pour le salut et la guérison. Connaître Dieu, c'est connaître son plan, connaître son caractère, connaître ses intentions. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Et la vie éternelle, c'est un commandement. Que la lumière soit, voilà, que la lumière soit pour toi. le pardon pour toi, la guérison pour toi, la paix aux hommes de bonne volonté qui veulent bien la paix. Comprendre, ça donne le pouvoir de quoi ? Eh bien, le pouvoir de te comporter différemment. Ah bon, Michel, vraiment ? Mais bien sûr, le comprendre donne le pouvoir de vivre selon Dieu, comme Dieu veut. Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le mot est au futur quand même. Tu connais la vérité, ça va te rendre libre, c'est-à-dire que tu vas faire des progrès dans ta manifestation de liberté. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La liberté, quand tu connais la vérité, tu rentres sur le chemin de la vérité et tu marches. Comme Jésus dit, je suis la porte, mais derrière la porte, il y a un chemin. La porte, c'est la vérité. Je suis la vérité, je suis la porte, je rentre. Ah, je vois un nouveau chemin, j'emprunte ce chemin. Il est un peu étroit, il est un peu plus difficile que dans le monde. Dans le monde, il y a toutes sortes de possibilités, toutes sortes de mensonges différents. Là, il n'y a qu'une vérité. Ah, ça paraît un petit peu austère. Mais la vérité te rendra libre, Jean 8, 32. De quoi ? Des erreurs, du péché, des maladies, de l'oppression du diable, des mensonges, des peurs. Libre de tout ce qui cherche à te nuire. Alors, que ton cœur parvienne à cette connaissance, à ce savoir du plan d'expiation. Arrête avec les fables, arrête avec les « je pense que » à mon sujet, à ton sujet, au sujet des autres. Maintenant, pense comme Dieu pense, crois ce que Dieu voit, vois comme Dieu voit. Tu veux ça ? Est-ce que tu veux ça ? Alors je vais prononcer le commandement, puisque la vie éternelle c'est un commandement, vous l'avez lu ? Je prononce le commandement sur nos vies et sur la vie de tous ceux qui écoutent. Prenez ça au sérieux. Si vous ne prenez pas ça au sérieux, je ne vous juge pas. Mais ceux qui prennent ça au sérieux, c'est bon pour vous. Je prononce cette parole de commandement. Que la lumière soit au nom de Jésus. Amen. Jésus, merci. Merci Seigneur de nous élever à cette connaissance, ce savoir qui nous permet d'aimer, de nous aimer nous-mêmes et ainsi de pouvoir étendre cet amour aux autres, parce que nous ne pouvons pas aimer les autres autrement si nous ne nous aimons pas déjà nous-mêmes. Merci Seigneur de nous aider à comprendre combien tu es juste et bon, à comprendre qu'est-ce que c'est ta justice. Ce pardon que tu donnes à l'avance, ça ne semble pas juste, et pourtant ça c'est ta justice. Eh bien moi j'aime ta justice, et je te prie bon Dieu que tu nous aides à comprendre de mieux en mieux, et que la lumière soit vraiment, et qu'elle grandisse dans nos cœurs, et que nous puissions être au bénéfice de cette expiation, mais pas simplement religieusement, mais en pratique, en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis parce que vous entendez ces choses. Vous êtes bénis. Vous êtes purs. Jésus dit, vous êtes purs parce que à cause des paroles que je vous ai dites. Il n'a pas dit, vous êtes purs à cause du sang. Le sang n'avait pas encore coulé quand Jésus a dit ça. Le sang n'avait pas coulé sur la croix. Il dit, vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai dites. Vous êtes purs si vous croyez ça déjà. Amen. C'est beau. C'est très beau. C'est très profond. Ça demande de ne pas être léger. Hein? D'approfondir ces choses et... Moi, je suis réjoui de pouvoir d'être un prédicateur de bonnes nouvelles. C'est la plus belle chose du monde. C'est pas la plus facile. C'est beaucoup plus facile de condamner, de se laisser glisser vers le bas et taper toujours. Mais réjouissons-nous de ce que Dieu nous a choisi pour ça, pour être des porteurs de bonnes nouvelles. Voilà, il y a une chance, il y a une possibilité. Croyez et vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Les musiciens, vous pouvez vous approcher et on va terminer. Excusez-moi, j'étais un peu plus long que d'habitude, mais c'est pour permettre au château de se réchauffer. Non, c'est pas vrai. C'est parce que j'avais besoin de vous dire ces choses.
Vers toi, mon Dieu, monte un chant d'amour et de joie immense. Je te bénirai en tout temps. Pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donnés, je te dis merci, toujours et même dans l'éternité, je te dirai merci, c'est toi. Dieu qui créa la terre et aussi le ciel, tu les as remplis de merveilles. Oui, pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donnés, je te dis merci. Toujours et même dans l'éternité, je te dirai merci. Et toi, mon Dieu, tu n'as pour nous que des projets de paix, et tu ne veux que le meilleur. Oui, pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits, et pour tous les jours que tu m'as donnés, je te dis merci. Toujours et même dans l'éternité, je te dirai merci. Toujours et même dans l'éternité, je te dirai merci.